extérieur et intérieur de l'histoire du peuple juif n'était pas apte à l'apparition de l'État d'Israël. Si c'était apparu avant, ça aurait été avorté. C'est déjà très très difficile comme ça. Mais c'est pas de pied en cap, de manière magique, que le divin enfant va apparaître, paraît des attributs de la royauté. Bon, c'est clair l'idée. Hein? Mais quoi qu'il en soit, Dieu empêche les mères d'Israël d'enfanter tant que les conditions que le fils que l'on attend, c'est vraiment cette étape de la messianité, ne sont pas remplies. Parce que sinon, il y aurait une approximation d'identité néfaste. L'illustration de cela nous est donnée dans la différence entre Ishmaël et Isaac. Avec Agar, Abraham tout de suite a un enfant qui rit. Metzaché, c'est Ishmaël. Il rit au présent. Alors qu'avec Sarah, c'est très difficile d'enfanter l'enfant qui s'appellera Yitzhak, celui qui rira au futur. On a étudié ce thème dans la paracha de la naissance de Isaac, on y reviendra une autre année, mais pour bien comprendre cela, si on n'attend pas que Sarah soit capable d'enfanter Isaac, alors elle risque d'enfanter Ishmaël. Alors déjà Ishmaël, né en dehors d'Israël, faut supporter, mais un Ishmaël né en Israël, alors vous savez la catastrophe que ça peut représenter. De façon générale, c'est la hantise que Amalek naisse d'Israël. Ça va jusque-là. Okay? Alors, je crois que c'est le. Alors voilà qu'on voit que Hana est la femme d'Elkana dans le récit de la Torah. Et Elkana a deux femmes. Et puis, sa femme préférée, Hana, elle, n'arrive pas à enfanter. Finalement, elle prie, et en fin de compte, on apprend d'ailleurs de sa prière, les règles de la liturgie de la prière juive dans le Talmud, elle prie, et en fin de compte, cet enfant est né. Et cet enfant, c'est Shmuel. Or, le Talmud va nous décrire une scène de la vie de Shmuel enfant, qui va nous faire comprendre ce qui fait courir Korach, si j'ose dire. Voilà comment commence le Midrash. Korach a eu un rêve, et il a eu dans son rêve le fait que de son nombril apparaissait un arbre au pied duquel Shmuel enseignait. Or, Shmuel, dans le verset des psaumes, est comparé à Moïse et à Aaron ensemble. Alors Korach raisonne de la manière suivante. Si de ma descendance doit apparaître quelqu'un qui est aussi valable que Moïse et Aaron ensemble, alors, moi-même, je suis aussi valable que Aaron et Moïse. Que signifie dans le Midrash cette manière d'expliquer les motivations de Korach? On va voir tout ça dans ce que je vais vous lire. Voilà, première indication. Dans la prière de Hana, pour que l'enfant, c'est pas qu'il va s'appeler Shmuel, l'enfant va naître. C'est pourquoi je reviens là-dessus, parce que ça veut dire que c'est une telle identité, telle qu'elle va nous apparaître dans Shmuel, dans le Midrash que nous allons lire dans Talmud, est telle qu'elle est empêchée de naître. Regardez dans le nom de Shmuel, Shemo El. Mais quoi qu'il en soit, c'est une identité telle que l'ordre des engendrements l'empêche d'apparaître. On apprend ça surtout dans une autre identité, celle de David. David ne devait pas naître, ne pouvait pas naître. Il faut forcer l'impossibilité de la naissance de David. Alors, ça explique que David n'a pu naître que parce que le premier homme a prévu de lui donner 70 ans de sa propre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Midrash. Qu'est-ce que ça signifie? On l'étudiera en son temps. Alors, dans la prière de Hana, « Benatata la matra zelar anashim »« Prends pitié de moi et tu donneras à ta servante une semence et une postérité d'homme, Zerar Anashim. Le Talmud veut expliquer cette expression Zerar Anashim. Mai Zerar Anashim, et il y a différentes explications. Une de ces explications, c'est celle de Rabbi Yochanan qui dit Zerar Sheshakou Bishne Anashim. Une postérité qui est équivalente à deux grandes personnalités. Umanimun, lesquelles Moshe Ve'aaron. Chenéhémar, d'après le verset du psaume, c'est le psaume 99, qui dit Moshe et Aaron Bekohanav, Moïse et Aaron à travers leurs prêtres, ou Shmuel, Bekoreshemo, et Shmuel, à travers ceux qui invoquent son nom. Ça veut dire que dans ce verset, Shmuel est mis en... Il y a un mot en mathématiques, mais il m'échappe. En... Enfin, bon, vous avez compris l'idée d'ailleurs. Moïse est mis, est mis au même niveau que Moïse et Aaron ensemble. Non. Bon, ça ne aurait... bon, ça fait rien, mais l'idée est là. Pourtant, il est déjà parti. Mais ça veut dire ceci, c'est que le Talmud a diagnostiqué qu'il y avait dans la personnalité de Shmuel cette capacité d'un homme qui soit à la fois le roi et le prêtre. Et c'est ça que Korach prend comme contestation contre Moïse. Cette identité du chef qui est à la fois le roi et le prêtre est interdite par la Torah. Les prérogatives du roi et les prérogatives du prêtre ne peuvent pas être confondues. Parce que le roi est celui qui doit mener l'homme dans la vie de ce monde-ci, alors que le prêtre est celui qui doit mener l'homme pour la vie du monde à venir. Et on ne peut pas mêler, identifier les critères de ces deux directions. D'un autre terme, en d'autres termes, la théocratie est absolument interdite par la Torah. Le roi n'a pas le droit d'être prêtre, le prêtre n'a pas le droit d'être roi. Alors que le roi peut être prophète, le roi peut être juge. Le prêtre peut être prophète, le prêtre peut être juge. Mais le prêtre ne peut pas être roi et le roi ne peut pas être prêtre. Et c'est pourquoi toutes ces accusations de théocratie contre le judaïsme sont fausses. Le judaïsme est une théonomie et non pas une théocratie. Ce n'est pas le pouvoir des prêtres, c'est le pouvoir de la Torah. Réfléchissez bien à ça. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que on risque d'être atteint. Enfin, il y a ce risque qui a été celui du temps du deuxième temple où qui a mené finalement au sadducéisme. Bon, je referme la parenthèse. Tout ça en disant pour l'histoire de Hanouka, où une famille de prêtres a pris le pouvoir au moment où c'était le temps de la rébellion contre les Grecs. C'était habilité. Et à partir du moment où ils ont installé une dynastie de royale de prêtres, ça devient hérétique, ça a mené au sadducéisme. Vous avez d'ailleurs dans la civilisation européenne les deux profils de la théocratie dans l'Empire chrétien d'Orient et dans l'Empire chrétien d'Occident. Dans l'Empire chrétien d'Orient, c'est le roi qui est le prêtre. À Constantinople, c'était... Ce qui me gêne, c'est le cas de l'Angleterre. Mais en tout cas, à Rome, c'est le prêtre qui est le roi. Et c'est ça, à Constantinople, c'est le roi qui est le prêtre. Eh bien, c'est dans ces deux cas, ce sont deux figures différentes de la théocratie. On n'a pas du tout l'enseignement de la Torah. Pour l'enseignement de la Torah, ça doit être distingué, le pouvoir du roi et le pouvoir du prêtre. Et voilà, il y a cette capacité de Shmuel. Dans sa prière, donc, le Talmud met en évidence qu'elle demande que Shmuel naisse quand même, bien que sa naissance fait apparaître une personnalité en Israël qui risque de mener ce danger qui a été raconté déjà dans la Torah pour la génération de la sortie d'Égypte avec Korach. Et puis, on apprend que l'enfant va naître et il doit être confié au grand prêtre de ce temps-là pour son éducation. Ce grand prêtre était Eli, pas Eli mais Eli avec un Aïn. Et il se produit un épisode qui est raconté dans le livre de Shmuel que nous allons voir repris par l'explication des années. Dans ce texte de Shmuel, on voit que Hana dit à un certain moment, « Elana al-Azid palalti. C'est pour cet enfant-là que j'ai prié. » Pourquoi elle intervient? À propos de quelle situation elle intervient? Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar enseigne. Shmuel, Moré Alakha Lifne Rabo Aya. Shmuel a été Moré Alakha Lifne Rabo, vous rappelez l'explication tout à l'heure, quelqu'un qui enseignait Alakha devant son maître. Donc il était Khayab Mita. Et c'est pourquoi Khana intervient et dit, c'est pourtant pour lui que j'ai prié, pour qu'il naisse quand même. De quoi s'agit-il? Chez Nehemar, Vaishratu est à part, Élie était grand prêtre, et en son temps, la règle était que seuls les prêtres faisaient les sacrifices. Et le verset dit, Vaishratu est à part, il, à propos d'un sacrifice, ils sacrifièrent le par, le taureau. Non, c'est pas le taureau. Oui, c'est le taureau. Vayavi, oui, et Anahar et Eli. Et ils firent venir l'enfant, c'était Shmuel, auprès de Eli. Alors la Gemara demande, Mishum de Vaishratu et Tapar, quel rapport y a-t-il entre les deux parties du verset? Parce qu'on a sacrifié un taureau, on a amené Anahar et Eli, cet enfant à Eli, et là, Amarla et Eli. Voilà ce qui se passe. Une famille, donc, a apporté un sacrifice devant Eli. Et Eli a dit, Kiru Kohen, l'ité velishrot. Allez chercher un prêtre qui vienne faire la shrita. Aznecho Shmuel, dehavu, mehadre betar Kohen et Mishrat. Et Shmuel s'est rendu compte qu'on cherchait un Kohen pour faire la shrita. Amarleo, il leur a dit, Lamalecho lehadre betar Kohen. C'est l'araméen, mais je traduis directement en français. Pourquoi vous allez chercher un Kohen, les Mishrat, pour faire la shrita? Shrita, bezar shera. La shrita, par quelqu'un qui n'est pas Kohen, un zar étranger à la Kehuna, et kshera, et licite. Aïtohu le kamede. Alors on a amené cet enfant qui était en apprentissage d'être prêtre chez Eli, on l'a amené chez Eli en disant voilà ce que ton élève est en train de dire, et c'était apparemment une hérésie colossale à ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, en ce temps-là, les prêtres avaient institué la règle que seuls les prêtres pouvaient faire la shrita. Mais pour la halakha, la shrita, et on peut la faire même si on n'est pas Kohen. Ce qu'on a appris la shrita, ça s'appelle la Mishnah, Kulam Shukhati. Khutmi, Kulam Shukhati. Je répète, il n'est pas nécessaire d'être Kohen pour faire la shrita. À quoi ça se rattache? Ça se rattache au fait qu'il y a des moments où, dans une société donnée, les prêtres instituent une sorte de dictature cléricale, si je veux dire, et parfois justifiée par les circonstances de l'histoire de la société en question. Mais ça ne signifie pas forcément que ce soit la vérité de la loi. Et voilà que Shmuel porte en lui déjà l'annonce d'un temps où il va y avoir une réforme de cette habitude que seul le Kohen est responsable du culte. Oui, je trouve ça va tout cela. Et au temps de Shmuel, Shmuel était tzaddik. Il a fait ce qu'il fallait faire pour le bien de la société d'Israël. Revenir à la halakha primitive, que Shrita Bezak Shera. Alors au temps de Korach, cette attitude vis-à-vis de Moïse était une attitude démagogique et condamnable. On a l'essentiel ici de là. Mais qu'est-ce qui mène Korach à cela? C'est qu'il sait que Shmuel va être habilité. Shmuel a eu raison. Mais Korach avait tort. Mais j'espère quand même, bien que je sois fatigué ce soir, être arrivé à vous expliquer l'essentiel. Je continue quand même la lecture. On l'a amené devant Eli, à Marley, Minalach à Eli, qui était le grand prêtre, mais pas forcément aussi grand ami Hacham que Shmuel. Il dit, et d'où tu sais ça? J'ai dit du mal de Eli, ça ne m'a pas échappé. Alors il lui demande, alors il lui répond par un verset, le verset de la Torah ne dit pas, et le Kohen fera le sacrifice, mais le verset dit, écrivez-vous à Kohanim, les Kohanim s'approcheront. Le rôle du Kohen, c'est de faire la smicha sur le sacrifice. Comme on dit en français, de l'imposition des mains sur un bête qui va être sacrifié avec le sacrifice lui-même, bien que c'est très bien que le Kohen le fasse, s'il n'y a pas de Kohen, un zar à la Keuna peut la faire. C'est important, en règle de la sociologie religieuse d'Israël, et que ce que nous voyons dans les synagogues, bien que la règle soit qu'il y a une fonction particulière du chazan ou du rabbin, et bien si le chazan ou le rabbin ne sont pas là, c'est n'importe quel juif qui sait le faire, qui se lève pour faire la prière pour la communauté. Alors il y a des communautés où les administrateurs ont des règles telles qu'ils interdisent aux juifs de se substituer au chazan. Vous voyez, alors que la vraie règle, c'est que ça me revient, une image qui me revient, une expérience. J'étais dans une communauté où il y avait déjà depuis longtemps une décision d'interdire aux gens qui montent à la Torah de lire la Torah. Seul le Chazan dit pourquoi. À l'origine, c'était justifié parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient lire eux-mêmes, mais ils ne savaient pas très bien. Il y avait des gens qui savaient. Alors la communauté a décidé, pour ne pas faire honte à ceux qui ne savaient pas très bien, d'interdire même à ceux qui savaient de lire eux-mêmes, c'est le rabbin qui doit lire. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit de lire, au contraire. La véritable loi, c'est que c'est celui qui monte à la Torah qui doit lire. Et c'est parce qu'il ne sait pas lire qu'on demande au rabbin de lire. Alors vous voyez comment ça s'inverse, que quand le consistoire, si j'ose dire, institue, c'est interdit à un juif de lire la Torah, soit le rabbin. C'est le contraire de ce qui... Vous avez compris le problème. Bon, c'est ça qui se passe avec Shmuel. Ni Kabbalah Vaelach, Mizot Kevotan. Mika Neshrita, c'est l'excellent de ça. Amarle, mais marche à fir, car Marta. Alors, Élie lui a dit, tu as dit une chose juste, une belle chose. C'est vrai, c'est comme ça. Mihou Mouré à la Chavish Nerabar, mais qui te permet d'enseigner à la Chav à la place de ton maître? Vekol, Mouré à la Chavish Nerabar, Vekol Amouré à la Chavish Nerabar, Chayamita. Alors, c'est là que Chana vient. Et se met à se plaindre en disant Ani Aïcha ni Sebete Imechavazé, c'était moi la femme qui était venue au temple pour prier pour avoir un enfant, et Amarla, et elle dit Elana Razé Palati, c'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est-à-dire, c'est une histoire que le Talmud rappelle dans tous les détails pour nous montrer ce qui se passe. Il y a des moments de mutation où ce que Korah voulait doit être fait, mais ça c'est au temps de Shmuel. Mais ce que Shmuel a fait ne doit pas être fait au temps de Korah. Vous voyez, ce qui a en bonne part mené Korah à se tromper. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, donc ça nous explique pourquoi, à la fin des temps, la position de Korah sera réhabilitée. Elle est d'une certaine manière par Shmuel. C'est pourquoi les autres dimensions du problème, et que les sources vont mettre en évidence les pulsions qui viennent du mauvais instinct, du etc., des intérêts individuels, en fait de l'orgueil qui mène à cette démagogie qui va être reprochée à Korah. Bon, je vois que je n'aurai pas le temps de vous étudier le reste, mais il faudra qu'une fois on étudie, c'est une des situations où Moïse est occupé dans l'histoire d'Israël à restaurer la relation d'autrui à autrui qui a été brisée entre Caïn et Abel. Et alors, il y a cinq situations qui correspondent aux cinq niveaux de la personne humaine, c'est ça que je voulais vous expliquer, mais pour plus que 10 minutes, on le ferait une autre fois. La Neshama, l'âme de chacun, a 5 niveaux de réalité. Et ça ne correspond pas du tout à la manière dont, dans la culture occidentale, on parle du corps, de l'esprit, de l'âme, de toutes ces notions. Donc, il faut l'étudier en détail. Mais je vais le dire en hébreu. Lorsque la Neshama, à travers le gouffre, à travers le corps, est reliée au monde extérieur, le niveau de la Neshama qui est en relation avec le monde extérieur, c'est le Nefesh. Le niveau de la Neshama qui est en relation avec le monde intérieur de la personne, c'est le Ruach. Ça, c'est facile à comprendre. Notre personne a un être de relation au monde extérieur. Alors, à ce niveau-là, la Neshama s'appelle Nefesh. Vous voyez, l'importance qu'ont les comportements biologiques animés par le neshama, mais c'est au niveau instinctif, au niveau de la vie biologique. Alors le neshama animant la vie biologique du corps, c'est le nefesh. C'est pourquoi les animaux aussi, à ce niveau-là, ont un nefesh. Mais il y a plus, il y a ruach. Ruach, c'est le neshama dans le... j'employais une formule des poètes, le jardin secret de chacun, c'est-à-dire son homme intérieur, ça c'est le ruach, qui est incommunicable, enfin, pas incommunicable, bien sûr, on communique de ruach à ruach, mais je veux dire que dans la vie de relation, c'est on communique de nefesh à nefesh. Par exemple, quand je dis bleu, eh bien, vos oreilles du nefesh comprennent ce que ma bouche de nefesh a dit en disant bleu. Il y a une convergence parce que nous avons la même expérience dans le monde de la relation extérieure. Tandis que il faut une. C'est déjà de l'ordre, de l'inspiration prophétique, de comprendre qu'au niveau du roar, quand mon roar dit bleu, et que le vôtre entend bleu, qu'est-ce que c'est que la qualité de ce bleu? Et qu'est-ce qui fait que le bleu est bleu? Ça, c'est encore autre chose, plus haut. Bon, vous avez donc. Pour chaque individu, il y a le niveau nefesh et ensuite le niveau ruach. Tous les individus ont ces deux niveaux. Il y a un troisième niveau qui s'appelle neshama. Et chacun n'a qu'une étincelle de neshama. Se rattache au monde de la neshama, de sa propre neshama, de par une étincelle. Sauf les grands qui ont à eux tout seuls une neshama tout entière. On les appelle les yichidim, on verra ça tout de suite. Je dis ça très rapidement pour montrer l'importance du problème. Et vous avez vu des tableaux où on montre des saints avec une auréole. Alors, je vais vous dire de manière très simple, ces deux niveaux, Nefesh et Ruach, sont incarnés dans le corps. De manière très difficile à expliquer, il me faudrait des heures pour mettre ça en langage de culture occidentale. Comment cette réalité qu'est le Neshama s'insère dans l'espace et le temps pour être Nefesh au niveau spatio-temporel de la relation avec le monde extérieur et pour être Ruach au niveau transcendant de l'intériorité. Bon, tout ça je vous dis des mots barbares, mais pour montrer que ce n'est pas des choses simples. Mais quoi qu'il en soit, tous nous avons, chacun à son niveau, un Nefesh et un Ruach. Le Nefesh est plus ou moins en bonne santé, le Ruach est plus ou moins en bonne santé. Mais chacun a un effet chez Aruar. C'est clair jusque-là. Ça s'appelle Nev. Un effet chez Aruar s'appelle Nev. Et puis, nous participons à une Neshama. Et en général, chacun s'accroche à une Neshama. Il faut parfois être plusieurs pour qu'une Neshama soit présente. C'est le secret du Minyan. Quand un Minyan est là, une Neshama est présente. Mais autrement, de très rares individus incarnent vraiment une Neshama. Et alors, il y a encore deux autres niveaux, Chaya et Yerida. Ces niveaux de lumière de la Neshama, c'est à ça que fait allusion l'auréole qui entoure le corps humain, la tête surtout, mais le corps humain est entouré par des lumières que le corps n'arrive pas à intégrer. Et alors, chaque individu dans l'humanité est à un niveau très différent de cette échelle d'envergure de personnalité. Tous intègrent en effet. Tous intègrent un roi, tous intègrent Nitzot, étincelle de Neshama, mais il y a des grands, on les appelle Yechidim, ceux qui ont une Yechida tout seul, qui incarnent Neshama, Chaya, Yechida. Et on est tous sur la même terre. Et alors, je ne sais pas, vous comprenez l'image, imaginez des contemporains, comment dire ça, se côtoient dans la même place publique, des personnalités d'envergure complètement différentes dans cette échelle. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Vous allez au marché, vous avez à côté de vous quelqu'un qui incarne une Chaya ou une Yechida, et vous n'en rendez pas compte, mais lui il sait que j'ai à côté de lui quelqu'un qui incarne que... Vous avez compris? Non, c'est vrai, surtout en Israël. En Angola aussi ça existe, mais en Israël il y a un rassemblement de tzadikim, on n'avait aucune idée. À quel point j'ai dit le marché, c'est une expérience très personnelle. J'aime bien le vendredi matin aller à Mahani Yehuda pour prendre un bain juif. c'est plein de tzadikim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis. Et puis, il faut leur marcher. Là. Mais c'est à des niveaux très différents de... Non, mais rien. Est-ce que c'est clair ce niveau? Et alors, on est sur le même... une image de géométrie qui m'échappe, sur le même plan, mais en réalité, c'est des niveaux très différents qui sont projetés sur le même plan. Alors, je vous parlerai de ces trois niveaux inférieurs dans les chemins, et à propos précisément de cette relation d'altérité entre les frères Caïn et Abel. Et alors, dans l'histoire, il y a trois niveaux où ça se réalise. À propos d'un verset, je vous ai monté la référence là, mais enfin, on reprendra une autre fois plus en détail. Ce soir, ça va lentement. Lorsque Dieu a donné un sursis à Caïn, le verset dit Kishiva Caïn, Yukam Caïn. Caïn est protégé par un sursis, et dans ce mot de Yukam, survivra Caïn, Yukam, la Kabbalah a vu trois des situations de relation d'autrui à autrui que Moïse a résolu. Oui, prenez le mot de Yukam, Yud Kuf Mem. C'est pour ça que je voulais, éventuellement, je n'arrive pas à me lever. Yukam. Mais, c'est comme ça, Yud Kuf Mem. Kuf Mem. Voilà. Alors, voilà, ça va suffire. Alors, il y a d'abord la relation avec l'Égyptien. Que Moïse a tué pour sauver Israël. C'est au niveau du Nefesh. Un Nefesh a rendu l'Itamout. Alors, au niveau du Mitzri, c'est le même Yukam. Voilà, la relation entre Moïse et cet Égyptien, c'est Caïn et Abel au niveau du Nefesh. Kouf, c'est le Rouar. C'est Korar. Moïse et Korar, c'est au niveau du Rouar. Yud de Yukam, c'est Jethro. Yitro. Yitro, Korar, Mitzri. Je reprendrai une fois ça, une autre fois, tout cet enseignement, beaucoup plus en détail. C'est-à-dire, Moïse a eu à résoudre ses relations d'altérité avec l'autre à ces trois niveaux. Au niveau du Nefesh, au niveau du Ruach, au niveau de la Neshama. Je vous donne l'exemple au niveau de la Neshama. Entre Caïn et Abel, il y avait le problème de la deuxième jumelle de Abel. Vous vous rappelez de cela dans le Midrash? Cette deuxième jumelle de Abel, c'est la fille de Jethro. Et Moïse reprend la deuxième jumelle de Abel qui était en question dans le conflit entre Caïn et Abel. Je dis ça de manière comme ça, allusive, pour montrer la densité de toutes ces explications que donne le Zohar. Je m'inspire là d'un des commentaires du Zohar que dans le Shema. Et dans la relation d'autrui à autrui, vous voyez, celle du Mitzri, c'est radical, en effet, Charotel et Tamut, mais le Rouar, il faut aménager jusqu'à ce que, effectivement, il y ait reconnaissance réciproque. Ça, c'est l'histoire de Korah. Jethro, c'est d'aller beaucoup plus vite. Il y a une relation de dignité, mais beaucoup plus haute. Entre Chaya et Yehida, je fais juste allusion. Chaya, c'est au niveau de la relation entre Moïse et Aaron, et Yehida, au niveau de la relation entre Moïse et Joseph. La relation d'altérité des frères entre eux. Alors, dans le cas de Moïse et Aaron, c'est déjà de toute autre envergure, c'est exceptionnel. C'est Aaron qui est le frère aîné, et pourtant il reconnaît la prééminence de Moïse. C'est Caïn, la partie bonne de Caïn, qui reconnaît la prééminence de Abel. Mais déjà, la partie bonne de Caïn s'annonce déjà au niveau du roi. Voilà, est-ce que c'est un peu clair ça? C'est difficile à comprendre, mais simplement pour vous signaler que ce récit de l'histoire de Korah se rattache à une situation d'identité humaine très importante, la relation d'autrui à autrui au niveau du roi. Alors c'est quoi? C'est la controverse des Talmidei Chachamim entre eux. Alors vous voyez un peu la force de ces enseignements de la Kabbalah, c'est de nous faire diagnostiquer comment dans la réalité du monde tel qu'il est, l'enseignement de la Torah retrouve la même cohérence. C'est assez vertigineux quand on dit ça dans le détail, qu'on n'est pas initié à tout cela. C'est la même Torah, mais quand on lit le récit de Caïn et Abel, si on le lit au niveau Roar, c'est l'histoire de Moïse et de Korah, si on le lit au niveau Neshama, c'est l'histoire de Moïse et Jethro, etc. je referme la parenthèse, tout ce que vous venez d'entendre, oubliez-le, mais gardez ce que vous avez compris. Voilà. Mais j'espère que la semaine prochaine, il fera moins chaud. Donc, ce sera plus facile. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.